dans le cœur, deuxième partie, une émission proposée par Raphaël Antoven. La première fois qu'on lit l'éthique, on est franchement déçu. C'est un livre ordonné, bizarre, ennuyeux, mal écrit, où les mots n'ont pas le même sens que tous les jours. Spinoza emploie un vocabulaire étrange, il parle de cause de soi, de cause immanente, d'attributs, de substances, de modes finis. Il balance des axiomes, il énumère des postulats, il inflige à son lecteur des démonstrations indigestes. Tout ça pour dire qu'en vérité, nous vivons sans but ni morale dans un monde silencieux et indifférent à la souffrance comme à la joie. Alors certains referment le livre, incrédules ou furieux, jurant qu'on ne les y prendra plus. Mais peu importe, c'est trop tard, ils l'ont lu. Maintenant que le mal est fait, c'est le meilleur qui les attend. Car le livre travaille à son insu, celui qui l'a lu une première fois. Ça commence par le sentiment que tout jugement est d'abord un préjugé, qu'il est idiot d'approuver sans comprendre, mais toujours possible de comprendre sans approuver. Ça commence par le réflexe singulier, qui consiste à se sentir l'élément d'un tout, l'atome d'un grand corps, tout en voyant spontanément les choses d'en haut, comme un ensemble ou partie solidaire. Quand on en est là, il faut reprendre le livre, et là c'est le bonheur. Les démonstrations vous persuadent, les scolies vous font rire, les propositions s'enchaînent comme une allée de lumière et vous emmènent à toute vitesse vers la sérénité. Tout est calme, et même les mauvaises pensées. Ce qui est ne peut pas ne pas être. Qui vit sans espoir s'épargne la déception. Qui vit sans regret divise son chagrin. On peut enlever aux hommes l'espérance et le regret sans qu'ils deviennent des animaux. Et pour voir les choses en elles-mêmes, il ne faut pas les découper du monde, mais au contraire en comprendre les causes. Peu à peu, tout s'enchaîne sans être contraignant et tout s'éclaire sans nous aveugler. Notre monde est le seul possible et il est si vaste qu'il inclut même les âneries qu'on peut dire à son sujet. Bref, vous croyez lire un livre? En fait, c'est lui qui vous comprend. Il y a 15 jours, en compagnie de Robert Misrahi, qui est philosophe et qui a longtemps travaillé sur l'œuvre de Spinoza, nous avons entamé une lecture de l'éthique de Spinoza. On a parlé de Dieu, des passions, de la béatitude, de la prudence, du désir, en nous émerveillant que ce livre austère soit par ailleurs si aimable, que ce monument géométrique soit tellement compréhensif. Alors, comme l'éthique dit tout, il est inimaginable en quelques heures de tout en dire. En 3 émissions, nous irons tout au plus au terme de l'éthique, mais nous n'en ferons pas le tour. Peut-être, en revanche, qu'on peut en dire assez pour convaincre ceux d'entre vous, chers auditeurs, qui ne l'ont pas lu, de lui donner sa chance, de s'y plonger obstinément, sans se laisser décourager par la toute première impression.
Personne ne sait encore ce dont le corps est capable. Et il ne faut point s'étonner de cela, puisque personne encore n'a connu assez profondément l'économie du corps humain pour être en état d'en expliquer toutes les fonctions. Et je ne parle même pas ici de ces merveilles qu'on observe dans les animaux et qui surpassent de beaucoup la sagacité des hommes, ni de ces actions des somnambules qu'ils n'oseraient répéter durant la veille. Toutes choses qui montrent assez que le corps humain, par les seules lois de la nature, est capable d'une foule d'opérations qui sont pour l'âme jointe à ce corps un objet d'étonnement.
Personne ne sait comment et par quels moyens l'âme meut le corps, ni combien de degrés de mouvement elle lui peut communiquer, ni enfin avec quelle rapidité elle est capable de le mouvoir. D'où il suit que, quand les hommes disent que telle ou telle action du corps vient de l'âme et de l'empire qu'elle a sur les organes, ils ne savent vraiment ce qu'ils disent, et ne font autre chose que confesser en termes flatteurs pour leur vanité qu'ils ignorent la véritable cause de cette action et en sont réduits à l'admirer.
Cette affirmation est l'une des affirmations les plus révolutionnaires que je trouve dans le spinozisme. C'est la critique de l'âme, c'est la critique du dualisme. La réalité humaine, l'individu humain n'est pas un corps d'un côté avec une âme de l'autre, uni on ne sait pas trop comment. Descartes n'a pas réussi à établir ce lien, dit Spinoza.
Robert Misrahi.
Non, la réalité humaine est une, et ce qu'on appelait l'âme, c'est en réalité l'esprit. Et qu'est-ce que l'esprit? C'est l'idée du corps. C'est la conscience du corps. Autrement dit, il y a une affirmation révolutionnaire. Il n'y a pas d'âme, mais l'individu humain est corps et conscience. Il est, ce sont les modernes qui parlent, il est son corps. Il est la conscience de son corps.
De là, d'ailleurs, le début de la troisième partie de l'éthique, où il dit « Nul ne sait ce que peut un corps ». Voilà. Une affirmation dont Nietzsche s'inspirera pour déconstruire l'hypothèse de la conscience.
Mais sur cette critique que fait Spinoza du dualisme, c'est essentiel. Vous disiez qu'il le reprochait à Descartes. On est là au début de la cinquième partie de l'éthique, et quand il se moque de Descartes, ouvertement, hein, il rigole, on sent qu'il rigole en écrivant, puisque Descartes explique dans le traité des passions de l'âme que il n'est pas d'âme qui, bien conduite, ne puisse acquérir un pouvoir absolu sur les passions. Donc Descartes reconduit, aux yeux de Spinoza, l'illusion selon laquelle la volonté, l'âme, perçue abstraitement, aurait, par miracle, le pouvoir non seulement d'agir sur quelque chose qui serait différent en nature d'elle-même, à savoir le corps, et non seulement d'agir, mais même de dicter sa conduite au corps. C'est l'illusion d'un homme qui dit « je fais ce que je veux, je commande à mes passions, arrêter de fumer n'est qu'une question de volonté, etc. etc. » On cède communément à ce vocabulaire cartésien qui est celui de la domination, de la domestication du corps par l'esprit. Spinoza, contrairement à ce que certains lecteurs peuvent en faire, n'inverse pas les termes de la proposition en parlant de la domestication de l'esprit par le corps.
Absolument.
Ça n'est pas son propos non plus. C'est-à-dire que Spinoza n'est pas
ni idéaliste ni spirituel.
Voilà, ni idéaliste ni matérialiste.
Ni matérialiste.
Voilà, il est d'une certaine façon l'un et l'autre. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça? Vous diriez immanentiste.
Immanentiste, oui, on peut pas le qualifier.
C'est la même chose finalement.
C'est la même chose. Il est très moderne. On pourrait penser, sans affirmer des identités, bien sûr, en gardant toutes les nuances qu'on voudra entre les siècles. Mais on pense quand même à la description de l'être humain par Merleau-Ponty. C'est-à-dire, l'individu humain est un corps vivant, un corps qui est une conscience, un corps qui est signifiant, significatif. C'est le corps qui établit des dimensions dans l'espace, des significations dans le monde. C'est le corps, mais c'est la conscience. Et ce corps, c'est pas le corps des médecins. Les médecins ont raison d'étudier les organes, mais c'est pas le corps vivant. Et ce corps concret, signifiant, conscient, mais même s'il peut être obscur, même s'il peut errer, bien entendu, cette description concrète, phénoménologique, d'un corps qui est une conscience ou d'une conscience qui est un corps vivant, unifié, elle plairait à Spinoza, disons.
Mais oui, mais alors ça c'est très étonnant, et en même temps ça pose toute une série de problèmes, parce que vous allez chercher du côté de la phénoménologie, donc de Merleau-Ponty, pour penser Spinoza. Dans la doctrine de Spinoza, il y a ce qu'il appelle les genres de connaissances. Nous avons les trois genres de connaissances. Pour le dire très rapidement, hein, on a un premier genre qui est rigoureusement corporel, et à ce titre illusoire, c'est par exemple le sentiment que Héraclite peut avoir sur la plage en levant le pied en constatant que la lune est de la taille de la moitié de son pied. Un homme qui déduirait de ce qu'il voit que la lune a effectivement la taille de la moitié de son pied céderait au premier genre de connaissances, ou que le soleil est une boule jaune à 200 pieds de nous.
Connaissance par sensation.
Connaissance par sensation. On confond le monde avec ce qu'on en perçoit. Ça, on est dans le premier genre de connaissance. Ce premier genre de connaissance chez Spinoza est surmonté par le deuxième genre de connaissance, qui finalement est une connaissance mathématique.
Rationnelle.
Et puis le troisième genre de connaissance, qui est une connaissance intuitive sur laquelle on reviendra ensuite. Mais alors là, si vous tirez Spinoza du côté de la phénoménologie, d'une certaine façon, vous réhabilitez le premier genre de connaissance. Parce que, pour Merleau-Ponty, prenons l'exemple, vous vous souvenez bien sûr de l'œil et l'esprit, le dernier texte de Merleau-Ponty. Il est au bord de sa piscine au Tolonnais, et il voit les reflets de la piscine. C'est vraisemblablement la fin de l'après-midi, le soleil se reflète dans la piscine et vient projeter une lumière sur les cyprès. Eh bien pour lui, la piscine, la lumière, le reflet, tout ça, ses perceptions ont une absolue légitimité. Il réhabilite cette sensation du monde, ce rapport au monde qui est un rapport de sensibilité, d'intuition sensible, dirait Kant. Le phénoménologue, c'est celui qui a beau savoir qu'il se trompe d'un point de vue cartésien ou mathématique, il est quand même celui qui va donner toute leur chance à ses impressions. Est-ce qu'en tirant Spinoza du côté de la phénoménologie, on ne le fait pas, voyez ce que je veux dire, oublier le deuxième et troisième genre de connaissances finalement?
Est-ce que Merleau-Ponty, à ce moment...
Parce que la piscine n'est pas dans les cyprès, elle est à côté.
Voilà, mais est-ce qu'il croit qu'elle est réellement dans les cyprès?
Bien sûr que non.
Il ne le croit pas. Alors là, nous retrouvons Spinoza.
Mais il l'éprouve.
Oui, Spinoza dit exactement ceci, vous le savez. Lorsque j'affirme que le soleil est à 200 pieds, la piscine dans le cyprès...
C'est la même chose, hein.
Oui,
que la terre est plate, enfin, gagnant du temps.
Je ne me trompe pas. Je me trompe lorsque j'affirme qu'il y a réellement 200 pieds entre la Terre et le Soleil. Lorsque ce que je vois, c'est ma sensation. C'est pas là où je me trompe. Je me trompe quand je l'interprète et quand j'affirme que cette donnée imaginative est une donnée réelle. Et on retrouve une autre idée de Spinoza à propos de l'imagination. Vous le savez, il fait la critique des passions en faisant la critique des biens imaginaires et la critique de l'imagination, mais il ajoute, c'est dans la seconde partie, en 17, il ajoute, si, à chaque fois que nous avons une image, nous savions clairement qu'elle n'est qu'une image et non une existence réelle, nous comprendrions que l'imagination est une force, est une vertu et non une faiblesse.
Les hommes se trompent en ce point qu'ils pensent être libres.
En quoi consiste une telle opinion ?
En cela seulement qu'ils ont conscience de leurs actions et ignorent les causes qui les déterminent.
Quand nous contemplons le soleil, nous nous imaginons qu'il est éloigné de nous d'environ 200 pieds. Or, cette erreur ne consiste point dans le seul fait d'imaginer une pareille distance, elle consiste en ce que, au moment où nous l'imaginons, nous ignorons la distance véritable et la cause de celle que nous imaginons.
Plus tard, quoique nous sachions que le Soleil est éloigné de nous de plus de 600 diamètres terrestres, nous n'en continuons pas moins à l'imaginer tout près de nous, parce que la cause qui nous fait imaginer cette proximité, ce n'est point que nous ignorions la véritable distance du Soleil, mais c'est que l'affection de notre corps n'enveloppe l'essence du soleil qu'en tant que notre corps lui-même est affecté par le soleil.
De la même façon que d'un point de vue strictement spinoziste, Dieu, c'est-à-dire la nature, finalement, inclut les âneries qu'on peut dire à son sujet, à savoir que Dieu est un homme à barbe qui trône au-dessus des nuages avec la foudre dans la main, etc., etc. Donc de la même façon que la nature inclut l'illusion que nous pouvons avoir de nous affranchir de la nature ou d'un au-delà d'elle-même, on peut tout à fait considérer que les erreurs, c'est-à-dire en vérité pour Spinoza des idées mutilées, des idées partielles, ce qu'il appelle une connaissance inadéquate, que les erreurs ne sont en elles-mêmes rien de négatif, mais qu'elles ont un commencement, un début de positivité, finalement que l'erreur, c'est le début de la connaissance. Se tromper, c'est déjà ça.
L'erreur ne comporte rien de négatif, absolument. À propos de la phénoménologie, je voulais dire la chose suivante. Lorsqu'il étudie les affects, il présente cette étude comme une étude causale. Il explique par quelle cause tel ou tel affect suivant se produit. Mais en réalité, ce qu'il décrit, ce sont des motivations. Quand il décrit, par exemple, le rapport à autrui, le rapport de compétition, c'est parce que il imagine que autrui va, par exemple, le combattre, le nier, le diminuer. C'est parce qu'il pense cela qu'il va, par exemple, éprouver un sentiment ou de colère ou d'agression, etc. Alors, l'exemple n'a pas d'importance. Je veux dire que Spinoza met en avant un lien de motivation entre des affects qui s'enchaînent logiquement, mais par motivation, bien qu'il présente les choses comme étant causales. C'est très important du point de vue méthodologique, parce que là aussi, on est presque dans de la phénoménologie. Les phénoménologues vont étudier, par exemple, Binswanger, qui va étudier l'anorexie, va étudier phénoménologiquement ce qui se passe dans une conscience, ce qu'elle souhaite, quelles sont ses intentions qui font qu'elle adopte telle attitude.
Mais alors, sur cette idée quand même que il n'est pas grave de se tromper d'une certaine manière, parce que c'est ça qui est important, c'est que on a souvent, communément d'ailleurs, la tentation, là encore cartésienne, de tenir l'erreur comme une forme du néant, et donc de faire procéder la connaissance, ou de faire commencer la connaissance, au moment du rejet de l'erreur. On la rejette du côté de l'illusion, au profit cette fois-ci d'une connaissance claire, et absolument certaine, de ce que Descartes appellerait une idée claire et distincte. Il y a chez Spinoza, bien sûr, la recherche de la clarté. Mais ce chemin qui le conduit à la clarté, un peu comme chez Bachelard d'ailleurs, ce chemin qui le conduit à la clarté commence par, je ne sais pas si l'expression vous convient, disons une tolérance à l'endroit de l'obscur, une acceptation des connaissances mutilées. Bref, le droit de se tromper, tout simplement.
On dirait presque, oui, là je serais d'accord, on dirait presque un respect pour l'erreur.
Comme un début de connaissance.
Comme un début de connaissance, et à la condition que soit nette et réelle l'intention de la dépasser, cette erreur.
Alors, il y a un point qui est très important dans la première partie de l'éthique, qui est la question de ce qu'on a déjà cité comme la question de l'immanence. À un moment, Spinoza dit, puisque vous me dites Spinoza est athée, il dit quand même que Dieu est cause de toute chose. Mais attention, on est à la proposition 18 de la première partie de l'éthique, il dit « Dieu est cause immanente et non transitive de toute chose ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Ça veut dire que la nature est sa propre cause. La cause est interne. Immanente, ça veut dire que lorsque des événements se produisent dans le monde, leur cause est dans la nature. Et si l'on dit que c'est Dieu, alors on veut dire que c'est la totalité de la nature qui peut rendre compte du surgissement d'un événement. Cet événement ne peut pas être expliqué par une cause transcendante, c'est-à-dire une intervention extérieure de Dieu.
Est-ce que Dieu est
dans l'événement.
Il est l'événement lui-même, d'une certaine façon.
Absolument.
Mais en même temps, Spinoza, expose une distinction fameuse qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître, avec laquelle il faut être familier, qui est la distinction qu'il fait entre la nature naturante, d'un côté, productrice donc, comme son nom l'indique, et la nature naturée, c'est-à-dire produite. Mais est-ce que ça n'est pas finalement la même chose ?
C'est la même chose, vous avez tout à fait raison. La nature ne peut être que naturante. Alors quand est-ce qu'elle est naturée ?
Ah oui.
Lorsque nous la regardons, nous, comme résultat figé, lorsque nous oublions qu'elle est produite de l'intérieur par la nature elle-même, qu'il y a une causalité, une énergie, un pouvoir qui est interne à la nature.
Est-ce que la nature naturée, donc, qui serait l'effet de notre regard, finalement, une façon de voir les choses comme déjà produites et non plus en mouvement, établie là où elle se trouve? Finalement, la nature naturée, c'est le salaud sartrien?
Oui.
On peut le dire,
oui,
ça?
On pourrait dire ça. On pourrait dire aussi que c'est...
Qui confond la vie avec quelque chose de fixe, de rigide, d'établi?
Voilà. On pourrait dire que c'est bergsonien.
Quel Bergson?
Le Bergson de l'évolution créatrice. On croit que les choses sont figées alors qu'elles sont portées par un élan. N'est-ce pas? On croit qu'il y a un déterminisme mécanique alors que... c'est un élan vital qui porte toute l'évolution des espèces.
C'est-à-dire qu'on se méprend sur le monde quand on parle de nature naturée?
Si
vous pensez la nature comme un mouvement permanent de production?
Si l'on ne pense que à la nature naturée, c'est-à-dire si l'on isole cet aspect de la nature, en effet, on manque la vérité. Parce que la vérité, c'est la nature naturante. Et...
Il est
normal qu'il y ait aussi un autre aspect de la nature naturante, puisque il va y avoir ce regard de l'esprit humain qui va peut-être la figer pour la connaître, pour la comprendre, pour faire la science, par exemple.
Pour le coup, c'est Descartes qui le dit, on ne dissèque que les cadavres.
Oui, c'est exactement ça. Peut-être, on affirme des cadavres pour les disséquer, mais en réalité, il y a eu un élan créateur.
Parce que finalement, quand on dissèque un cadavre, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Pas grand-chose, en définitive.
Rien de réel, absolument.
Rien de réel, en tout cas rien de vivant.
Absolument.
Est-ce que ça veut dire que chez Spinoza, dès qu'on essaie de connaître par l'explication quelque chose, finalement on en manque le mouvement?
On peut dire ça. On peut dire ça.
C'est quand même extraordinaire, parce que le livre est quand même écrit selon la méthode géométrique.
Selon la méthode géométrique, mais il incite aussi à comprendre très exactement ce que vous venez de dire, c'est que on est tout de même sollicité vers une connaissance plus profonde. Et on va avoir le troisième genre. C'est le troisième genre qui va nous rappeler que tous ces événements que nous avons mis en forme par la raison et que nous avons bien fait puisque nous avons remplacé la magie par la science. Mais maintenant, comprenons que tous ces événements mis en forme et en place par la raison scientifique, comprenons qu'ils sont le mouvement de l'être infini de la nature, le mouvement d'une seule nature qu'on peut appeler Dieu.
Nous nous écartons ici à ce qu'il semble de la croyance vulgaire. La plupart des hommes pensent qu'ils ne sont libres qu'autant qu'il leur est permis d'obéir à leur passion. et qu'ils cèdent sur leurs droits tout ce qu'ils accordent au commandement de la loi divine. La piété, la religion et toutes les vertus qui se rapportent à la force d'âme sont donc à leurs yeux des fardeaux, dont ils espèrent se débarrasser à la mort en recevant le prix de leur esclavage, c'est-à-dire de leur soumission à la religion et à la piété.
Et ce n'est pas cette seule espérance qui les conduit. La crainte des terribles supplices dont ils sont menacés dans l'autre monde est encore un motif puissant qui les détermine à vivre selon les commandements de la loi divine. Si l'on ôtait aux hommes cette espérance et cette crainte, s'ils se persuadaient que les âmes périssent avec le corps et qu'il n'y a pas une seconde vie pour les malheureux qui ont porté le poids accablant de la piété, il est certain qu'ils reviendraient à leur naturel primitif, réglant leur vie selon leurs passions et préférant obéir à la fortune qu'à eux-mêmes.
Croyance absurde, à mon avis, autant que celle d'un homme qui s'emplirait le corps de poison et d'aliments mortels par cette belle raison qu'il n'espère pas jouir toute l'éternité d'une bonne nourriture, ou qui, voyant que l'âme n'est pas éternelle ou immortelle, renoncerait à la raison et désirerait devenir fou.
Pour en revenir à ce que Spinoza dit du désir, il y a traditionnellement deux définitions du désir. Hein. La première ordonne le désir selon un but, et la deuxième fait précéder le désir finalement d'une puissance, ou identifie le désir à une puissance. En gros, dans un cas, on est tiré par un objet qu'on désire, et dans l'autre, on est poussé vers le monde, et on se donne des objets dont on pense à tort que ce sont eux qui nous tirent. Est-ce qu'on peut le comprendre de cette façon-là ?
Absolument, c'est exactement ainsi que Spinoza décrit le désir. Il affirme très exactement, nous ne désirons pas une chose parce qu'elle est bonne, elle est bonne parce que nous la désirons. C'est-à-dire, nous la disons bonne parce que nous la désirons. Nous désirons d'abord et nous posons les valeurs du désirable ensuite.
Alors, donc, ça n'est pas parce qu'une chose est bonne qu'on la désire, c'est parce qu'on la désire qu'elle est bonne. Cette phrase donc formidable, ça veut dire en gros que c'est pas parce qu'une femme est belle que nous l'aimons, c'est parce que nous l'aimons qu'elle est belle. Il décrit un processus que Stendhal reprendra sur le mode de la cristallisation.
Absolument.
Ou que René Girard reprendra sur le principe du désir mimétique,
oui.
En expliquant que nous désirons également le désir que l'autre peut avoir de l'objet que nous désirons. Mais si ça n'est pas parce qu'une chose est bonne qu'on la désire, mais c'est parce qu'on la désire qu'elle est bonne. Ça veut dire que si je désire prendre de l'héroïne, l'héroïne est bonne.
Non. Parce que le processus, l'analyse va être...
Alors ça, j'ai jamais compris. Donc
je vais essayer de vous donner mon opinion. Je désire de l'héroïne. Si je la désire, c'est qu'elle est bonne. Reprenons-nous. Elle n'est bonne que parce que je la désire.
Attention, je désire de l'héroïne sans être accro à l'héroïne. D'accord, c'est-à-dire que je ne suis pas toxicomane, c'est le début.
C'est le début. Je désire de l'héroïne, elle est bonne, alors maintenant nous savons, elle n'est pas bonne en elle-même, elle est bonne parce que je la désire. La question est celle-ci que vous avez posée, mais alors, si c'est le désir qui fait la valeur des objets, tous les objets désirés sont bons. Donc, l'héroïne ici va être bonne. Mais nous n'avons là que le désir de premier niveau. Nous n'avons là que le désir qui est accompagné d'une connaissance du premier genre. Nous n'avons là que le désir qui considère l'héroïne, qui considère imaginairement l'héroïne comme porteuse d'une félicité totale et sans danger.
Mais je peux
consomme. Donc, je consomme.
Mais je peux parfaitement savoir que l'héroïne est mauvaise pour moi à l'instant où je la désire, sans en avoir pris avant.
Si je sais qu'elle est mauvaise, si je sais qu'elle est nocive, si je sais qu'elle peut être nocive, à ce moment, je me reprendrai. Je me reprendrai. Parce que j'anticiperai. Si elle est nocive, ça va vouloir dire ceci, c'est que, au terme d'un certain temps de consommation, elle ne va pas répondre à mon désir premier de félicité, elle va au contraire me détruire et m'aliéner. Elle va le faire nécessairement si je la connais bien, si je suis bien informé. Je sais qu'elle va faire ça. Me détruire et ne pas me donner la félicité.
Oui, mais je peux la désirer quand même. Je fais ici référence...
On ne la désire quand même que si on se plie à l'imagination, à la passion.
Mais comment se fait-il à ce moment-là qu'au paragraphe, à la proposition 17 de la quatrième partie, Spinoza, citant Ovid, dit « Je vois le bien et je l'approuve, et pourtant c'est le mal que je poursuis. »
Avant la réflexion éthique.
Et oui.
Avant la réflexion éthique, je vois le meilleur et je fais le pire. Il le dit souvent.
Comment pouvons-nous voir le meilleur et faire le pire?
Parce que nous n'avons pas encore réfléchi. Parce que nous sommes pris par l'imaginaire. Nous croyons voir le meilleur. Dans le pire, dont nous savons qu'il est pire, nous croyons voir un meilleur puisque nous le poursuivons.
Ça veut dire, dans ces conditions, que chez Spinoza, nul n'est méchant volontairement?
Oui, bien sûr.
Parce que je cite cette phrase parce que c'est un adage socratique. Socrate, dans le Ménon, donc dans le dialogue de Platon, et on peut opposer terme à terme Spinoza et Platon sur bien des sujets, hein, ils sont antithétiques au possible. Mais alors sur cette question, précisément, Socrate, dans le Ménon, explique à Ménon...
Oui, j'aime bien le rapprochement.
Nul homme ne désire être malheureux, dit-il.
Absolument.
Et comme faire du mal à autrui, c'est comme s'en faire à soi-même, nul homme ne peut, en toute connaissance de cause, faire de mal à autrui. Si quelqu'un fait le mal ou se fait du mal à lui-même, c'est, pour Socrate, c'est équivalent. Pour Platon, c'est la même chose. Faire du mal à autrui et se nuire à soi-même. Ça veut dire que nul homme ne peut désirer, en connaissance de cause, se faire du mal, se nuire ou faire du mal à autrui. S'il le fait, c'est en ignorance de cause.
Absolument. Et comme je vous disais, j'aime bien ce rapprochement qui prouve ceci. C'est que la plus grande philosophie, par exemple Platon et Spinoza, la plus grande philosophie, les meilleurs des philosophes, pose l'idée suivante. Par la raison, nous pouvons éviter le malheur et la passion et la servitude. La raison peut faire que si je désire de l'héroïne, je peux y renoncer à un certain moment, si j'ai la connaissance. Si j'ai la connaissance, parce que Spinoza ajoute ceci. Là, vous soulignez un point essentiel, mais comme tout le temps. La question est la suivante. Vous me posez la question suivante que nous posons à Spinoza. Est-ce que la seule connaissance d'un mal... Est-ce que la seule connaissance va nous permettre de changer nos désirs?
Est-ce qu'elle est de nature à nous dissuader de mal agir?
Spinoza répond, paradoxalement, Spinoza répond non. C'est fabuleux. On a toujours cru que Spinoza répondrait comme Socrate, oui. Spinoza répond non. La connaissance vraie n'a par elle-même aucun pouvoir sur les affects.
De la même façon que l'esprit n'est pas là pour dompter le corps.
Voilà.
L'intempérance, l'ivrognerie, le libertinage, l'avarice, l'ambition, toutes ces passions ne sont autre chose que l'amour et le désir rapportés à leurs objets. Rien autre chose qu'un amour ou un désir immodéré des festins, des boissons, des femmes, de la richesse et de la gloire.
On remarquera que ces passions, en tant qu'on ne les distingue les unes des autres que par leurs objets, n'ont pas de contraire, car la tempérance... La sobriété, la chasteté, qu'on oppose à l'intempérance, à l'ivrognerie, au libertinage, ne sont pas des passions. Elles marquent la puissance dont l'âme dispose pour modérer les passions.
Alors c'est fabuleux que Spinoza, le philosophe de la raison souveraine et de la félicité heureuse par la raison, dise à un certain moment très clairement... Non, ce n'est pas par la puissance de la raison que l'on va vaincre l'imaginaire de la passion. Alors comment? Par un désir plus fort. C'est Éthique 4.20, je crois. C'est par un désir plus fort que l'on va vaincre un désir imaginaire, c'est-à-dire une passion. Seul un désir peut vaincre un désir. Et seul le désir de bien vivre pourra donner ensuite un pouvoir... À la raison. Il faut que j'aie le désir d'être en pleine santé plus longtemps, constamment. Il faut que j'aie ce désir fort pour que les connaissances que je vais acquérir sur l'héroïne soient efficaces. Ce n'est pas la seule connaissance. Si je reste dans simplement placé devant mon désir de l'héroïne, la connaissance que j'aurai, la connaissance scientifique et médicale que j'aurai, ne suffira pas. C'est bien vrai. Mais que faut-il ? Il faut mobiliser un désir, un autre désir. Quel autre désir ? Le désir de vivre, le désir de vivre heureux, dit-il. Je crois que c'est éthique 20. Nul ne peut désirer être heureux et bien vivre s'il ne désire d'abord être. Quand j'aurai bien compris par la réflexion, malgré tout, par la conscience, que j'ai en moi ce désir et qu'il est primordial et que l'essence de l'homme c'est le désir et que mon essence fondamentale c'est le désir de vivre, à ce moment, je donnerai une efficacité, mais c'est moi qui la donnerai, une efficacité à la connaissance rationnelle des méfaits de l'héroïne. Il n'y a pas de guerre civile en moi, il y a ignorance de moi. Et je vais au contraire prendre conscience de ma totalité qui est désir de vivre. Et je vais comprendre, si je suis capable de faire un effort, je vais comprendre qu'il y a une opposition entre mon désir de vivre et ma consommation d'héroïne. C'est parce que je m'aveugle que je continue à prendre de l'héroïne, c'est-à-dire à laisser dans l'inflation ce désir d'héroïne, en oubliant que je suis fondamentalement désir de vivre.
Mais en même temps, Spinoza pense pour le désir la possibilité du désir lui-même de se laisser prendre aux illusions de l'imaginaire.
Oui.
Le désir peut se méprendre.
Oui.
Et c'est là qu'on retombe en servitude chez Spinoza.
Oui. Servitude que je n'hésiterai pas, moi, à appeler volontaire, ce qui n'est pas spinoziste, puisqu'il n'y a pas de faculté de volonté chez Spinoza. Mais moi, j'appellerai bien la servitude qu'il nous décrit. Je l'appellerai bien avec la Boétie comme servitude volontaire. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, je crois que c'est autour des propositions 13, c'est le début de Éthique 3, à un certain moment, il affirme exactement la chose suivante. L'esprit s'efforce toujours d'imaginer ce qui accroît son pouvoir. Et je remarque,
quand l'esprit imagine des choses qui diminuent la puissance d'agir du corps, il s'efforce, autant qu'il est en lui, de rappeler d'autres choses qui excluent l'existence des premières.
Oui, et avant de donner cette analyse détaillée, il avait dit d'une façon générale, c'était un théorème...
C'est le 12, proposition 12.
Vous l'avez là ?
Oui. L'esprit s'efforce, autant qu'il est en lui, d'imaginer les choses qui augmentent ou favorisent la puissance d'agir du corps.
Voilà. Et moi, je souligne, s'efforce... Spinoza est prudent, il ajoute autant qu'il est en lui. Moi, je souligne, s'efforce. Qui est-ce qui s'efforce ? C'est l'esprit. C'est l'esprit qui consent et qui veut se soumettre à l'imaginaire. Alors ici, je serais plus favorable à parler de servitude volontaire. Un moderne comme Sartre parlerait de servitude complice. Et je crois que c'est dans l'esprit de ces analyses de Spinoza. Lorsque Spinoza, c'est son propos général, nous dit « Si vous réfléchissez, vous verrez, vous avez des ressources qui peuvent vous conduire vers la liberté et vous sortir de l'aliénation. Mais il faut vous y mettre. »
Qui que vous soyez, quelle que soit votre condition, que vous soyez aveugle, tétraplégique ou quoi que ce soit... Nous avons, d'une certaine façon, les mêmes moyens.
Voilà. Et nous avons ce moyen. Alors, quand il dit ça, il sous-entend que nous avons effectivement ce moyen. Et que, par conséquent, nous pouvons, à un certain moment, changer notre orientation antérieure. Reconnaissons une chose. Ce serait desservir Spinoza, de ma part, ce serait desservir Spinoza que de vouloir lui faire dire, à tout prix... ce qu'il aurait dû dire, n'est-ce pas ? Spinoza n'a pas clairement dit que tout se passe comme si nous étions libres et que notre servitude était volontaire. Il l'a pas clairement dit. Si on l'interroge comme ça, à la hâte, il va répondre par le déterminisme. Moi, je repère quelques endroits qui, pour sauver la cohérence de son propos... Pour sauver la cohérence de son propos, je dois affirmer à certains endroits qu'il sous-entend un certain pouvoir intérieur de liberté ou, comme moi je dirais, de conversion.
Ce qui veut dire en somme que pour comprendre Spinoza, donc pour le prendre avec soi, étymologiquement, il faut être pris par lui.
Voilà.
Et se situer d'emblée à l'intérieur de son système de pensée.
Exactement.
Et ça, c'est essentiel, je crois.
Absolument.
Il faut le dire, c'est très important.
Oui. Par exemple, pour le déterminisme.
Il faut être spinoziste quand on lit Spinoza.
Voilà.
Au moins.
Voilà. Tout à fait. Pour en tirer tout ce qu'il peut nous apporter, il faut commencer par rentrer vraiment, par être spinoziste. Prenons un autre exemple, qui n'est pas loin. C'est le problème du déterminisme. Donc, Spinoza affirme le déterminisme partout, où il dit tout événement physique qui est un...
Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de contingence.
Il
dit la contingence, c'est la mesure de notre ignorance.
Voilà. Un événement physique a pour cause un autre événement physique, qui a pour cause un autre événement physique, une idée a pour cause une autre idée, etc. Il affirme ça fortement, donc c'est le déterminisme. Si on le prend à la lettre, en affirmant un déterminisme aussi rigoureux que le déterminisme scientifique du XXe siècle, ou plutôt du XIXe siècle, si on le prend à la lettre et qu'on affirme un déterminisme absolu, on ne va pas pouvoir comprendre l'itinéraire de libération. Comment est-ce qu'on sort de la passion? Il faut se rappeler, alors, pour bien comprendre Spinoza et tirer profit de ses analyses, que l'affirmation du déterminisme au XVIIe siècle n'a pas la même signification ni la même fonction que l'affirmation du déterminisme aujourd'hui. Aujourd'hui, l'affirmation du déterminisme, en effet, peut être soit un progrès de la connaissance, soit, parfois, lorsqu'il s'agit de l'esprit humain ou des sciences humaines, un frein. Au XVIIe siècle, l'affirmation du déterminisme est une innovation subversive. Pour expliquer le monde, on souhaite que l'on ne fasse plus appel à la croyance ou à la magie, comme c'était trop souvent le cas, à la croyance, à la magie ou à la foi. Infirmer le déterminisme au XVIIe siècle,
c'était libérer l'homme des croyances.
C'était libérer l'homme des croyances, absolument.
Mais
c'était ouvrir la modernité.
Et est-ce que la valeur ajoutée de Spinoza en matière de déterminisme n'est pas justement de finalement dépasser le débat qui oppose d'un côté les tenants de la providence, tout est écrit, hein, Jacques le fataliste, tout est écrit, c'est écrit à l'avance, par conséquent, s'il y a la peste quelque part, qu'on aille ailleurs ou qu'on n'y aille pas, de toute façon, quelle que soit la décision, entre guillemets, qu'on prend, de toute façon, il est écrit qu'on la prendrait. Donc, d'un côté, les providentialistes, si j'ose dire, et de l'autre côté, les tenants du hasard et de la liberté absolue, expliquant que rien n'est écrit et qu'il nous appartient, nous, d'écrire une petite bribe d'un texte dont nous sommes les auteurs. Donc, il y a d'un côté les providentialistes, de l'autre côté, les hasardeux, si j'ose dire. Et finalement, Spinoza, au milieu de ça, qu'est-ce qu'il propose? Il explique que le monde est une série de causes et d'effets, concaténation de causes et d'effets, mais que cet enchaînement de causes et d'effets n'est pas déterminé par une cause finale au départ. Ce qui veut dire que finalement le déterminisme spinoziste a la rigueur, la pesanteur d'une certaine manière, d'une série causale qui embrasse la totalité du réel, et en même temps la légèreté, qui vient du fait que cette série causale n'a pas une cause première au départ qui a tout écrit à l'avance.
Voilà, il n'y a rien d'écrit à l'avance. Et
Spinoza, pourtant, tout est causé.
Voilà, Spinoza utilise le déterminisme comme un instrument de connaissance, mais non pas comme un instrument de fermeture ou comme un instrument d'humiliation qui humilierait l'homme, qui comprendrait enfin qu'il n'est rien. Spinoza n'est pas une philosophie du destin, ça n'est pas une philosophie du fatalisme. Spinoza est une philosophie de la liberté, n'oublions pas. En même temps qu'il met en place un déterminisme pour comprendre la nature, il met en place une éthique qui, finalement, est explicitement une éthique de la liberté, puisque...
Mais qui reste quand même prise dans l'enchaînement causal.
Si l'on veut.
Comment si l'on veut ?
À la condition de faire de cet enchaînement causal l'instrument de l'accroissement de notre connaissance.
C'est-à-dire de la joie.
C'est-à-dire de la joie, du fait de vaincre d'abord les passions, puis ensuite d'accéder à la joie, puis à la béatitude.
Mais alors, avant de parler de la joie, parce qu'on va y parler, parce qu'il y a ce binôme fameux de joie et de tristesse, encore un point sur cet enchaînement causal. Est-ce qu'on peut pas finalement faire de Spinoza une lecture quasi existentialiste?
Ah oui.
Mais je m'explique très rapidement. C'est que pour un existentialiste, ou même pour Pascal d'ailleurs, hein, nous naissons par hasard dans un monde qui s'en fout. On est embarqué, dit Pascal. Il faut tenter de vivre. Cioran en déduira que on se suicide toujours trop tard. Sartre en déduira que nous sommes condamnés à être libres. Pascal pensera à partir de là la misère de l'homme sans Dieu. Mais enfin bon, ils ont tous en commun de partir de l'idée que nous existons d'une certaine façon sans l'avoir demandé, par un hasard absolu, et dans un monde à qui il est parfaitement indifférent que nous survivions ou que nous mourions. Alors, pour Spinoza, il y a une série de causes qui précèdent notre existence. Des causes, puisque nos parents eux-mêmes ont été conçus, les parents de nos parents eux-mêmes ont été conçus, tout ça en vertu de ce que certains appelleraient un hasard, ce que Spinoza appellerait des causes, bien, qui donnent lieu à notre existence. Mais finalement, notre existence, quoique intégralement causée, est prise dans un réseau causal, à partir du moment où rien n'est écrit à l'avance, demeure, est-ce qu'on peut le dire, hasardeuse? Contingente?
Je vous pose cette question. On pourrait le dire, vous avez raison.
Je vous pose cette question parce qu'en général, l'une des critiques de Spinoza, c'est de dire il n'y a pas de place au hasard chez Spinoza, donc il n'y a pas de place à la liberté. Qu'est-ce qu'on répond au kantien de stricte obédience qui dit ça?
On répond ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a de la contingence. Il le dit d'ailleurs assez clairement. Il dit l'existence de l'homme n'est pas nécessaire, au sens où il serait sa propre cause. Seule l'existence de la substance est nécessaire, la substance est sa propre cause. La nature entière est sa propre cause, mais pas l'homme individuel. C'est-à-dire que l'individu, il est contingent qu'un individu existe ou non, bien qu'il y ait des causes concrètes, bien entendu. Les causes concrètes, le déterminisme particulier local, n'empêche pas qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir une existence humaine, et d'autre part, l'existence humaine n'est pas son propre fondement ontologique. Donc il y a comme une contingence. Et il est vrai qu'ensuite, comme chez les existentialistes...
Vous auriez pu naître à un autre moment,
voilà,
j'aurais pu exister différemment, voilà. Nous aurions pu parler une autre langue, être tout simplement quelqu'un d'autre.
Absolument, absolument.
Mais
il n'y a pas de fatalisme. Mais sur cette base, et dans un univers déterminé, nous avons à construire notre propre vie, nous pouvons construire notre propre vie. C'est-à-dire que on peut affirmer donc qu'il y a une cohérence entre cette description souple chez Spinoza du déterminisme et de la contingence de l'homme. Il y a une contingence entre ces affirmations et les affirmations de la fin de Éthique 4, de la quatrième partie, qui consiste à dire, au début des tout derniers théorèmes, l'homme libre accomplit ceci, n'accomplit pas cela, etc. Il s'agit de l'homme libre. Il l'affirme explicitement. L'éthique spinoziste, jusqu'à la fin de Éthique 4, a consisté à construire la vie de l'homme libre. Un homme libre, c'est un homme qui est assez conscient pour savoir que en lui, son essence est le désir, et le désir de vivre, et que seule la connaissance réfléchie qu'il aura de ce désir de vivre sera en mesure de bien choisir ses désirs concrets.
Qu'est-ce que vous appelez la liberté vraie?
La liberté vraie. La liberté vraie, c'est l'autonomie, c'est-à-dire le fait de parvenir enfin à se réaliser soi-même comme on se désire, à éprouver soi-même la voie qu'on désire, à savoir qu'elle ne dépend plus que de nous à un certain moment.
C'est une chose certaine que les hommes les plus passionnés pour la gloire sont justement ceux qui déclament le plus sur ces abus et sur la vanité des choses de ce monde. Et ce n'est point là un caractère particulier aux ambitieux. Il est commun à tous ceux qui sont maltraités de la fortune et dont l'âme a perdu sa puissance.
Un homme pauvre et avare tout ensemble ne cesse de parler de l'abus de la richesse et des vices de ceux qui les possèdent. Ce qui n'aboutit du reste qu'à l'affliger lui-même et à montrer qu'il ne peut supporter avec égalité ni sa pauvreté ni la fortune des autres. De même encore, celui qui a été mal reçu par sa maîtresse n'a plus l'âme remplie que de l'inconstance des femmes, de leur trahison et de tous les défauts qu'on ne cesse de leur imputer.
Mais revient-il chez sa maîtresse et en est-il bien reçu? Tout cela est oublié.
Alors, est-ce qu'on peut à ce moment-là qualifier la liberté chez Spinoza comme le fait d'agir par soi-même et selon ses propres normes?
Absolument. Ah oui.
Oh, mais quelle différence entre ça et le type qui dit « je fais ce que je veux » ?
C'est que dans le premier cas, il y a réflexion. Il y a réflexion. Réflexion sur les buts, réflexion sur sa propre nature, recherche d'une adéquation entre sa propre nature, nous dirions aujourd'hui notre propre histoire, notre personnalité et les buts que nous allons poursuivre. Il y a une réflexion sur la validité et la permanence, la validité pour nous, mais également la validité pour autrui des buts que nous allons poursuivre, sur leur pertinence, sur leur consistance. Il y a une immense réflexion faite avant que l'individu libéré déploie son désir.
Ce qui veut dire que la liberté n'est pas mesurable ou quantifiable en vertu du champ de mon action, parce que pour un esprit courant, on se dirait plus on a de pouvoir, plus on est libre. Si je peux demain matin affréter un avion qui m'attende dans un aéroport privé ou au Bourget pour m'emmener aux Bahamas parce que j'ai envie d'y aller, le commun des mortels, vous et moi, dira celui qui est capable de faire ça est plus libre que moi, d'une certaine manière. Donc, on mesure bien souvent la liberté au champ de mon action, à ma possibilité d'agir. Si je suis capable d'obtenir des suffrages infinis, si je suis dictateur, on peut considérer d'un certain point de vue que je suis plus libre. D'un point de vue strictement spinoziste, le dictateur n'est pas plus libre que
mais non.
Tout le monde.
Et ce que va atteindre le dictateur ou le voyageur qui va fréter son avion, ce qu'ils vont atteindre risque de se retourner contre eux.
C'est-à-dire,
par exemple, le dictateur va connaître naturellement l'angoisse de l'insécurité. Il n'y a pas de dictateur qui se promène seul, ni dans l'Antiquité, ni aujourd'hui. Il n'y a pas de dictateur qui n'ait une protection rapprochée. Une protection, c'est-à-dire très exactement un enfermement. Il n'y a pas de dictateur heureux.
En somme, la liberté n'est pas fonction de mon champ d'action, mais fonction du rapport que j'entretiens à la façon dont j'agis.
Oui, rapport avec moi-même, rapport à la façon dont j'agis, rapport au nouveau monde que je déploie autour de moi en étant moi-même.
Est-ce qu'on peut parler d'une liberté qualitative, à la façon de Bergson?
Oui, à la fois qualitative et réfléchie.
C'est-à-dire?
Elle est qualitative parce que l'homme libre éprouve la joie d'exister. L'homme libre est celui qui a le plus accru son pouvoir intérieur par sa réflexion. C'est celui qui a le plus acquis d'indépendance intérieure. C'est donc celui qui est le plus valablement et solidement joyeux, qui a le plus atteint ce qu'il appelle la satisfaction de soi.
Il y a une proposition, je crois, qui permet de comprendre parfaitement ce que vous dites là, et qui est la proposition 67 de la quatrième partie, où il explique que la chose du monde à laquelle un homme libre pense le moins, c'est la mort. Et
oui.
Que sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Pour le dire rapidement, on peut considérer qu'un homme qui fait profession de liberté ou qui se vante d'être libre a toujours quand même en fond sonore ou en ligne de mire, si vous voulez, la perspective d'avoir à mourir un jour, qui est quand même un obstacle considérable à l'exercice de sa liberté. D'abord parce qu'avant de mourir, il va vieillir, et qu'ensuite, de toute façon, quoi qu'il fasse, il se heurte à un mur, à une barrière infranchissable qui est la mort. On peut essayer de la surmonter en croyant qu'on vit au-delà de la mort, etc., etc. Mais le fait est que la mort est quand même un obstacle considérable à la liberté pensée comme liberté d'agir et d'aller où on veut, par exemple. Pour Spinoza, l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort. Comment ça se fait? Comment ça marche?
L'homme libre, c'est celui qui est libéré de tout préjugé et il est libéré du préjugé de l'immortalité. Il est libéré de la théologie, de la croyance dans une transcendance, et l'homme libre ne pense pas à la mort. Il ne construit pas sa philosophie comme étant une réflexion sur la mort, c'est-à-dire que l'homme libre n'est ni Bossuet ni Heidegger. L'homme libre, il n'est même pas Camus, car l'homme libre a su construire sa joie. L'homme libre a su construire sa joie, son autonomie absolue, en privilégiant par exemple l'amitié. L'homme libre, qui est un partisan de la vertu, vertu au sens spinoziste, l'homme libre désire toujours pour autrui ce qu'il désire pour lui-même, ce qu'il désire de mieux, bien sûr, la félicité de la liberté. Il désire toujours pour autrui ce qu'il désire pour lui. Autrement dit, il n'a pas à réfléchir à la mort. Il sait qu'il n'y a pas d'immortalité. Il sait que notre vie a déjà une valeur en elle-même. Si nous l'avons construite par la réflexion, dans l'amitié avec autrui. Et surtout, je crois que c'est la proposition 70 de ce livre 4, de cette quatrième partie, l'homme libre est plus libre dans la cité où il vit selon la loi commune que dans la solitude où il n'obéit qu'à son propre décret.
Oui, donc la liberté, ça n'est pas la liberté ombrageuse d'un Rousseau qui
voilà.
Va s'exiler
c'est ça.
En
c'est
faisant
pas
profession. C'est
oui,
pas
oui.
L'anarchie.
C'est pas l'anarchie.
C'est pas la misanthropie non plus.
Ni la misanthropie, ni l'ascétisme. La liberté, c'est vraiment le goût de vivre avec la construction de l'autonomie, la jouissance de vivre et l'accès à ce que j'appellerais l'expérience d'être.
Voilà, merci Robert Misrahi.
Rendez-vous dans 15 jours pour la suite et la fin de cette conversation sur l'éthique de Spinoza, dans laquelle nous parlerons encore de la mort, mais aussi et surtout de la générosité, de l'amitié, de l'optimisme et de la béatitude. Tout de suite, la parole est à Emmanuel Laurentin pour la nouvelle fabrique de l'histoire.
Merci Raphaël Enthoven, et dans 15 jours donc pour votre émission. Pour l'instant, pourquoi tant d'histoire, histoire des idées, histoire de fiction et histoire tout court. À 11h30, vous retrouverez les chemins de la connaissance de Jacques Munier autour du fondamentalisme chrétien. Et à 11h02, vous aurez pu écouter le dernier épisode de votre feuilleton Les chutes sans fin de Villiers de Lialand de Bertrand Leclerc, dans une réalisation de Michel Sidorov, suivi du livre du jour. Mais tout de suite, la nouvelle fabrique de l'histoire. Histoire actualité aujourd'hui avec une grande partie de l'équipe de la nouvelle fabrique de l'histoire qui ce matin évoquera brièvement quelques-unes des approches possibles de l'actualité. L'histoire avant qu'à 10h, donc comme chaque vendredi, nous retrouvions l'émission d'archéologie de Vincent Charpentier, le Salon Noir, dont l'invité sera ce matin Maurizio Tozzi, professeur à l'université de Bologne, qui parlera de l'Arabie ancienne de 10h à 10h40. Donc discussion ouverte sur quelques informations restantes qui méritent d'être commentées selon les collaborateurs de la fabrique. Nous parlerons ainsi de fétichisme de la date, l'anniversaire, donc en ce 2 décembre avec Thomas Baumgartner. Nous parlerons de fétichisme des objets avec Aurélie Luneau, qui a noté combien en vente publique le goût pour certains objets a priori sans valeur, mais que de grands hommes touchèrent ou possédèrent est toujours aussi grand. Elle interrogera l'anthropologue Paul van der Rijp, de professeur à l'université de Lille, un passé qui nous parle par anniversaire ou par objet interposé, mais aussi par les images, celles de ses nombreuses productions télévisées. Les Rois Maudits ne sont pas la dernière, qui mettent en film, passé lointain ou plus récent. C'est ce que vient de faire le réalisateur Hervé Ballet, que Perrine Kervan est allée voir au montage sur son dernier film, Le Cri, consacré à l'histoire de la sidérurgie, passé analysé également par les chercheurs, avec Séverine Yatard, qui a suivi une soutenance de thèse récente, celle de Sandra Fayol sur l'union des femmes françaises. Mais je ne serai pas trop long, comme dit toujours un président d'assemblée, les jours de comice agricole, le buffet est ouvert. Servons-nous. Bonjour Sylvie Tenneau.
Bonjour.
Alors je ne vous ai pas annoncé parce que vous allez rester 2 minutes avec nous puisque vous avez une conférence de presse qui commence à l'instant même dans la maison de la radio. Vous êtes chercheuse spécialiste de la guerre d'Algérie. Vous avez été parmi les chercheurs et les historiens et historiennes qui ont beaucoup combattu à propos de la loi du 23 février, donc sur le rôle positif de la colonisation, la loi à l'article 4 de cette loi. Vous étiez venu ici pour en parler avec Claude Liozu. Cette loi, donc, il y a eu une possibilité pour les socialistes de tenter de faire supprimer cet article 4 cette semaine. Ça n'a pas été fait. Et donc, vous donnez une conférence de presse. Pour dire quoi exactement, Sylvie Tenneau, aujourd'hui?
Pour dire que nous persistons dans notre demande de l'abrogation de l'article 4. Il y a donc une nouvelle pétition qui a été lancée auprès des universitaires, des chercheurs, mais qui s'élargit à tous les historiens, enseignants ou tout citoyen qui souhaiterait s'engager sur ce terrain, parce que tout simplement nous pensons que tant que cette loi n'est pas abrogée et qu'elle reste présente dans le droit français, elle reste une menace pour l'avenir. Gilles de Robien a dit pour l'instant que les programmes scolaires ne seraient pas touchés, on veut bien lui faire confiance, mais rien ne nous dit ce qu'il en sera des gouvernements suivants, ce qui se passera après 2007 ou peut-être même dans 10 ans ou 15 ans, et donc c'est pour ça qu'on continue à demander l'abrogation.
Alors évidemment, c'est plus difficile aujourd'hui puisqu'il y a eu des tentatives donc législatives qui ne sont pas parvenues à leur terme cette semaine. Donc quelle va être la suite du combat d'une certaine façon, Sylvie Tenneau?
On ne sait pas trop comment il va s'organiser. En tout cas, il est clair que il faut qu'on arrive à dépasser le stade de la pétition d'intellectuels pour passer peut-être à un autre, et notre nouvel appel se termine par un appel aux associations ou organisations qui seraient susceptibles de se mobiliser sur cette question.
Parce que vous pensez effectivement que la question, c'est une question actuelle et ça n'est pas simplement une question.